R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Rebonjour à tous. Donc on est très content de pouvoir faire une présentation d'un film sur lequel on travaille depuis plusieurs années avec Louis. Alors c'est à la fois un film et c'est à la fois une recherche. Je pense que c'est aussi une belle manière d'introduire le travail d'Elisabeth avec les Carabins. Peut-être pour aussi faire suite à la proposition d'Aline et à la présentation que Bénédicte vient de faire, d'essayer de réfléchir aussi au cinéma dans une perspective qui ne soit pas, et peut-être qui va justement, qui rejoint la fin de l'exposé de Bénédicte, qui ne soit pas un mode d'exposition, mais un mode de pratique de quelque chose, c'est-à-dire de quelque part d'incorporation d'une question. Donc non pas le cinéma comme objet qui met à distance, mais le cinéma comme objet qui essaye d'être un rituel contemporain et qui essaye de partager entre la manière dont c'est fait, la forme que ça a à l'arrivée. Et peut-être que le cinéma est dans son histoire industrielle plutôt quelque chose où la manière de fabriquer et ce qu'on voit à l'écran sont radicalement séparés. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran ne nous permet pas de comprendre comment c'est fait. Et peut-être que l'une des tentatives qu'on a expérimentées avec Louis dans ces dernières années est peut-être d'essayer d'avoir un cinéma, on va dire, affecté, si on rejoint un peu les pratiques du carving. C'est un cinéma où ce qu'on essaye de montrer dans le cinéma affecte même ce qu'on voit et comment c'est fait. Voilà, ça c'est ça. Et on a décidé avec Louis donc, de faire une présentation à deux voix et à deux langues. Louis est anglais, personne n'est parfait. Et moi, je vais parler en français. Et on a décidé de faire une présentation où on essaye de faire un tout petit peu un travail de filiation d'un film. Au lieu de le penser, comme souvent tous on le fait, à partir d'un point d'arrivée intellectuel et vécu, on va essayer de revenir avec le plus de sincérité possible sur les processus de transformation qui ont été à l'œuvre en faisant ce projet, qui je trouve sont assez intéressants à partager. Même si on ment toujours, comme dans une espèce de récit, de biographie, après coup, on est toujours amené à arranger un peu l'histoire, on va essayer quand même de raconter ce qu'a produit cette expérience à partir d'un premier point de départ et des réévaluations successives de notre point de vue au fur et à mesure qu'on était pénétré par cette fabrication de film. Voilà, c'est ça l'exercice.
Ok. Yeah, no, that's good. That's very nice. So I will go to English now. In fact, I'm going to begin with playing. We have quite a lot of video that we'll show today, actually, but it's because it's the last session and we make films. So we're going to show around. Should I lie to you? I was going to say 15 minutes, but it's a lie. It's more like 20 minutes of video. But that's fine. So I'm going to begin first with a 4-minute or 3-minute clip from a film that Olivier and I made together in 2015 called Black Code, Code Noir. So we'll watch 3 minutes of that and then we'll speak about that clip.
But you should say, to say it really clearly, that we don't make it together. You made that film and we met with that film as a first part of our encounter.
Well, it was a project that I had started under the auspices of... it's not so true what he says exactly.
No, but I think you can say...
It's a bit wrong. It's a film that that I was in the process of trying to make, and then I met Olivier and told him about the project, and then invited him to do a conference with me at Beaux-Arts Paris in 2015.
And the film was there already.
It wasn't yet finished. Anyway. But it's true. It's a film that I made. Yeah. But on the credits, it says produced by Olivier Marbeuf. Donc voilà. Anyway. Credits is just to help funding. But yeah, it was a research project I began whilst I was doing a postgraduate research diploma at the European School of Visual Arts in Angoulême and Poitiers. And Olivier and I met and I told him about this project and he was very interested to hear more. So we had this first conference and then it sort of developed into eventually a series of workshops, an exhibition, a series of events. Anyway, I'm going to play just a clip.
Carrying torches to light their way, the leaders of the revolt met in an open space in the thick forests of the Mont Rouge, a mountain overlooking Le Cap. There, Bookman gave the last instructions and, after voodoo incantations and the sucking of the blood of a stuck pig, he stimulated his followers by a prayer spoken in Creole, which, like so much spoken on such occasions, has remained. The God who created the sun, which gives us light, who rouses the waves and rolls the storm, though hidden in the clouds, he watches us. Our God, who is good to us, orders us to revenge our wrongs, who will direct our arms and aid us. Throw away the symbol of the God of the whites, who has so often caused us to weep, and listen to the voice of liberty, which speaks in the heart of us all. That very night, they began.
D'Haïti, c'est son histoire. La révolution haïtienne a été le flambeau des révolutions latino-américaines. Haïti est le premier pays qui a obtenu son indépendance. Nous avons eu des héros comme Toussaint, Dessalines, Pétion, Christophe. Ils sont nés du peuple même. Ils ont surgi du peuple. Ils ont conduit la masse des esclaves souffrantes jusqu'à rompre les chaînes de l'humiliation coloniale.
Ma'am, please stay still.
Come over here like you pay your rent, motherfucker. Y'all stink. You got to get licked up to do your business up in here.
All right, sit down now.
If you close your eyes, the punk-ass cop is gonna shoot me.
All right. Sorry, we had to stop on such a bad face. We'll get rid of him. Ciao. I know, but then we lose the videos. So that was just a clip to try and introduce what we're then going to end up speaking about, which is a project we are both engaged in at the moment in Haiti with a group of young Haitian actors and poets. This was the first sort of point of interest for us both. Is that bad? Is that distracting to have that there?
No.
No, ça va. The research for this project, Black Code, Code Noir, was led by an inquiry into a series of speculated relations between police murders of African Americans in the United States at that present moment, 2014, the use of computer software, and hence computer code, to aid police surveillance and control, what we called at the time, or can still call, the algorithmic becoming of the police force in the United States. And then what Angela Davies refers to as a sedimented history of slavery. It's a history that bears itself within the present, or actually on the present, the afterlife of slavery. And the codes and laws that controlled the lives and deaths of African Americans, both as slaves and after the abolition of slavery, through what were called initially in the French colonies, Le Code Noir, and later after the abolition of slavery in the United States, the Black Codes. So what we tried to do was a kind of archaeological reading of the crisis in the United States in 2014 following the riots in Ferguson after the murder of Michael Brown and after the acquittal of Darren Wilson, the policeman that murdered Michael Brown. this archaeological reading attempted to ask the question, which ghosts of what stories were haunting these riots in Ferguson? And we asked, following the gesture from Black Audio Film Collective's Hands With Songs from 1986, how could, and I quote from the film, the living transform the dead into partners in struggle? What I proposed at the time was that perhaps the Haitian Revolution could be understood as the first instance of a breaking of these necro-political codes of law that governed existence and death of enslaved people. Perhaps it was the first hacking of this code, of Le Code Noir. We can consider Le Code Noir, of course, as a kind of algorithm. It's a series of procedures that must be followed in order to have a desired outcome. And the Haitian Revolution, we were trying to propose as a kind of unwriting of the source code of this algorithm of the Code Noir, an unwriting of its source code through anti-colonial sorcery. Like I spoke earlier, the Haitian Revolution began with this voodoo ritual. This is the ceremony we hear about in the beginning of the film. You have a shot going around Place de la Bastille, and we hear a woman's voice reading a passage from C.L.R. James, Trinidadian philosopher, historian. This was a ceremony that took place in the Bois Caiman in the north of the French colony of Saint-Domingue. Over the next 10 days, large groups of slaves gathered throughout the country, burning plantations and murdering their captors. This revolt eventuated into the revolution that lasted until 1804, in which Haiti was established as the first independent black state in the Americas. I don't think I need to say much more. I mean, there's so much more to say about Haiti and the revolution, but we're not here for a history lesson on Haiti and the revolution. So I would just make some assumptions that people are relatively familiar with the country of Haiti. If not, we can speak about that afterwards. But as you see in the clip here, there's many heroes that are very frequently evoked. In this clip we just saw, we have Louverture, Dessalines, Pétion, Christophe. These are all particular leaders of certain moments throughout the revolution. One of the leaders I was particularly interested in, and this is actually how Olivier and I met, because I came to propose the production of a film to him about the figure of Toussaint Louverture. I was particularly taken by him because of the sort of tragic aspect to his position within the history of Haiti. He was born a slave, but kind of earned his freedom, if you could put it that way. Was educated, and then eventually he became one of the leading generals in the Revolutionary Army. He actually wrote the first constitution in 1801. But in 1802, he was captured by Napoleon Bonaparte and brought to France on a boat with his family, his wife and children. His wife and children were sent to the south of the country, and Louverture was sent to the furthest point east in the Jura Mountains, in a place called Pontarlier, where he was put into a cell in the Chateau de Joux. Now, this is the most eastern point possible away from Haiti, across the Atlantic, within the French within French territories. And Louverture, his only kind of his main power of resistance during that period was the fact that he knew how to read and write, which, as someone coming from a background of being a slave, was rare in the early 19th century. So he continued, so he started writing. He wrote many letters to Napoleon, and he started writing his memoirs. But it's not memoirs in the traditional sense. It's actually a long document he wrote as a way to try and kind of excuse his role and to get himself pardoned and eventually released and sent back to his homeland, to Haiti. But Napoleon banned him from writing because he was frustrated with this man's attempts, his continual attempts at resistance. So Napoleon's forces, they ban Louverture from writing, but he continues to write in secret. And he would fold up his memoirs that he's writing into small squares and hide them in a scarf that he would wrap around his head every night. So when Louverture eventually died from malnutrition and pneumonia, basically murdered by Napoleon's free and democratic republic, and murdered because he was trying to generate freedom and democracy in a slave colony, they found his memoirs wrapped around his head. So these letters were eventually sent to the National Archives in Paris, in Saint-Denis. Well, not in Saint-Denis at the time, but now they exist in Saint-Denis. And this was one of my first sort of entry points into this history, was going to the archives in Saint-Denis and reading all of Louverture's letters and memoirs. So he was this tragic hero that was somewhat inserted within a sort of literary tradition. He's a writer, but he's also somebody that had much written about him. So what I kind of set out to do at that time, and this was the project I proposed to Olivier, was a kind of archival topography. I wanted to go looking for the landscapes that these letters were written within to see if somehow we could bring this ghost back to life in the present. I was also interested in looking at the work of C.L.R. James and then later on Edouard Glissant, the poet and philosopher from Martinique, because both of those two men wrote plays about Louverture. So this was very much a literary search in that sense of looking for his letters within the landscape, but also looking for histories of Louverture within literature. And I stumbled or came across, really par hasard, this play. Well, it's not par hasard. It was a gift from an ex-girlfriend of mine. She gave me a book, which generated this entire project. So really, we owe it to her in some respects. It was a play called Monsieur Toussaint by Edouard Glissant, written in 1961 for the radio and then adapted for stage in 74. I think the dates are correct. If not, I apologize. What was particularly interesting with this play, Monsieur Toussaint, is that it's about the history of the Haitian Revolution and Toussaint Louverture, but it's set in France. It takes place in the cell, in the prison cell of Louverture, in his last days before he died. He's dying. And Olivier will sort of pick up on that point in a bit. And he's visited by ghosts in his cell. So the history of the revolution gets acted out as a kind of ghost, as a sort of haunting of the history of Haiti within present-day France, or present-day in 1803. So I was very interested then in this idea of going to the Jura, and this is what I did, to look at the mountains, the landscape, that the French had sort of weaponized into this prisonscape, because the castle Louverture was kept in is literally built into the rocks of a mountain, so that the walls of the prison are made of the granite of the rock that sort of circles around the prison. So my idea was to think, well, if we have stratigraphy, writing of strata, and if we could understand that perhaps these documents, these letters, were somewhat written within the sedimented layers of the Jura, could we suppose a reading in a geological, geologists can read history by looking at strata. I was proposing, can we read the sort of colonial history of this figure, Toussaint Louverture, within the strata of the Jura? So there's some things there that start to come together. Notably that, well, the Jura was an ocean millions of years ago, a tropical ocean, which eventually disappears when you have the sort of transformation and changes of the mountainscape. And what gets left behind are layers and layers of sedimentation of dead animals and dead plants that then start to create the limestone layers that make the mountains. So it's essentially a kind of fossilized ocean. And there's a sentence in the play by, well, maybe I'll come to that in a second. What I was particularly fascinated with as well was this idea of the geological transformation of Toussaint Louverture himself within this fossilized ocean. When Louverture died, his bones were chucked into an unmarked grave. So there's a kind of process of a sort of ossification of his body into the geology of the landscape. And this was this idea we had to kind of bring that out again with some, I don't know, sort of transformation, further ritualistic transformation. So there's something particularly interesting, and this was actually came up, and I thought about this today in response to various things that were already being spoken about. But I showed a clip of this part of the film at a seminar last summer, and the Brazilian artist and writer Jota Mombassa made a very interesting point, which is that something that they found quite fascinating with this sort of analysis of this like geological transformation or the search within the rocks for this body of this ex-slave is how it's both land and bodies that are exploited by different, you know, colonial projects. And Jota was trying to see if there wasn't an argument for some form of solidarity between, in this instance, the black body and the landscape, in opposition to the way that land is either exploited, things are extracted from it, minerals from the land, labor from a body, for example, but also how the landscape is weaponized as a form of prison as well. So the landscape we're speaking is this ocean, and there's a sentence in the play by Edouard Glissant where he makes l'ouverture say, j'ai traversé la mer dans l'autre sens. I crossed the sea the other way. So l'ouverture didn't go west across the Atlantic. I'm very bad with my cardinal directions. So I always have to say never eat shredded wheat. So he crossed east. But then what we were interested to do in a very simple gesture, quite simply, and this is why I will pass over to Olivier, was to actually cross l'ouverture back the other way in the Atlantic to try and see, and this is where Olivier is going to pick up, what kind of reverberations might be felt within the bodies and the landscape of the youth within Haiti today.
Yeah. Je vais passer en français. Oui, c'est intéressant parce que une fois que ce paysage a été vraiment installé, et c'est vraiment le geste de Louis au départ, notre conversation est venue d'une question très simple, de dire toutes ces spéculations sont intéressantes, mais si on allait vérifier en Haïti ce qu'eux ils en pensent, ça semble extrêmement simple, très trivial. Mais c'est peut-être une rupture, déjà une première rupture de la question coloniale, d'essayer de voir ce qu'on imagine, ce qu'il en reste dans le corps de l'autre. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question de corps-paysage. C'était déjà le sujet, je crois, de la performance hier. C'est le sujet du travail qu'on fait aussi avec Louis. Et ça rejoint beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui sur l'incorporation, c'est-à-dire essayer de réfléchir. Et pour moi, le point de départ était de considérer que des affects particuliers venaient en fait d'un rapport à la subjectivation qui est différente dans les sociétés. Et qu'en tant que Caraïbéen, je défendais l'idée d'appartenir à la fois à un corps, mais à un corps-paysage qui incorporait en fait un ensemble de non-humains. Peut-être pas dans la perspective contemporaine latourienne, mais quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus trivial, qui est l'espèce de radicalité nue fabriquée par les déportations esclaves, qui fait que l'homme ou la femme marron, quand il ou elle s'enfuit, si on sort de l'idée romantique qu'il s'enfuit pour se libérer, mais d'abord qu'il ou elle fuit vers la mort et traverse la mort pour peut-être retrouver une autre composition de vie. Parce qu'il faut se rappeler aussi que le récit colonial de la plantation, c'est un récit d'un système qui n'a pas d'extériorité. C'est la violence politique qui s'exerce dans la plantation, c'est de dire, si vous sortez, vous allez à la mort. Parce que c'est de l'inconnu, c'est un danger réel. Hein. Je veux dire, il faut imaginer l'Amazonie autour ou des îles non domestiquées. C'est vrai qu'on a de bonnes chances de mourir très vite, avec très peu de ressources. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le petit marronnage est la stratégie de départ, c'est-à-dire de partir de la plantation pour venir y faire des razzias. et reprendre des ressources dont on a besoin parce qu'on n'est pas, ils sont pas encore en mesure de complètement vivre en autonomie par rapport à la plantation. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe douloureux, mais qui pour moi a un écho aujourd'hui quand on veut construire un autre monde à l'intérieur du monde toxique. Le besoin qu'on a d'un certain niveau de toxicité pour construire cet autre monde. Et donc pour moi, c'est l'inverse d'une utopie en fait. Là, le marronnage, c'est l'inverse de l'utopie. C'est qu'il n'y a absolument pas d'autre monde possible. Et pourtant, il faut essayer de pratiquer cette espèce d'absolument impossible. Et l'une des choses qui est peut-être la chose la plus difficile à intégrer dans une perspective occidentale, c'est que la fuite marronne n'est pas une fuite romantique vers une autre vie, c'est une fuite à travers la mort. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une espèce de séparation ontologique de la subjectivité, de l'Amérique caribéenne. Et le groupe qu'on a créé avec ces jeunes poètes haïtiens, Louis et moi, s'appelle « The Living and the Dead Ensemble ». C'est les vivants et les morts, comme dans Black Odo Film Collective. C'est-à-dire qu'il y a sans séparation radicale entre les alliances entre les vivants et avec les morts, plus que certains sont ce qu'on appelle aux Antilles des nègres au-delà de la mort, c'est-à-dire des gens qui sont promis à la mort et qui pourtant ne sont pas morts. Et cette traversée de la mort crée un rapport aux vivants, puisqu'on a parlé de ça aujourd'hui, particulier. Donc moi, j'ai toujours essayé de témoigner. Ça crée une poétique particulière, ça crée un rapport au temps particulier, un rapport à l'existence particulier. Et donc, lorsqu'on parle d'une ontologie humaine, je rajoute le fait que, certes, dans l'histoire de l'humanité, certains ont été sortis de l'humanité, et pour y revenir, ils n'y reviennent pas symétriquement. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Ils ne reviennent pas, en quelque sorte. C'est quelque chose. C'est un retour qui n'est pas une forme de retour. Et c'est vrai que quand on a été en Haïti avec lui au départ, on avait cette idée de se dire, qu'est-ce qu'une pièce sur Toussaint l'ouverture, écrite en français, avec le français le glissant des années 60, qui est un français pour moi, que je dirais extrêmement douloureux. Parce que c'est le niveau de français d'Édouard Glissant, qui est un niveau de français tellement plus élevé que le niveau de français classique, témoigne en fait de ce qu'on appelle le principe de respectabilité aux Antilles, c'est-à-dire d'un désir d'être des super français. Et donc à lire aujourd'hui, c'est douloureux, parce que c'est une langue d'une qualité qui témoigne d'un désir de montrer au maître blanc qu'on est capable de dépasser sa langue. Et ce désir de dépassement qu'on peut complètement comprendre dans la génération de Glissant, qui est la génération aussi de mon père, est aujourd'hui extrêmement violent pour les gens de ma génération. C'est même de ça qu'on veut se débarrasser, c'est-à-dire la notion d'une existence contingente au regard de l'hégémonie blanche. Et donc trouver un autre chemin. Glissant est encore quand même dans une réponse qui va être de sa génération, hein, la réponse de cette qualité dans le français, même s'il va le travailler toute sa vie et l'abîmer, quand même, Monsieur Glissant, c'est une langue qui est assez violente. Et lorsqu'on porte cette langue-là comme objet de travail avec des jeunes haïtiens aujourd'hui, pour eux, c'est juste pas possible. On ne peut pas raconter une histoire d'Haïti avec cette langue. C'est juste une chose qui, dès le premier jour où on les rencontre, ils sont 8, 6 garçons et 2 filles, ils ont entre 20 et 30 ans, ils disent, bon, première chose déjà, on va le traduire en créole, et en créole haïtien d'aujourd'hui. Ce que s'était refusé à faire Glissant, et il avait considéré que c'était une forme d'artifice auquel il voulait échapper, ce qui fait donc que dans sa pièce, Mackendal parle en français, ce qui est complètement grotesque, au passage. Et hyper violent. Même Maman Dio, qui est la figure de la prêtresse vaudou, parle en français, ce qui n'est pas possible. Et donc, il y a quand même quelque chose qu'ils n'osent pas faire, mais qui, quelque part, est une impasse. Eux, à l'inverse, d'abord, ils choisissent, et c'est même le premier moment dont on comprendra plus tard son importance, chaque participant choisit qui il veut jouer dans la pièce. Et nous, on va mettre 2 ans à comprendre pourquoi lui ou elle a choisi ce rôle-là. Et plus ça va avancer dans notre rapport avec eux, plus il sera hyper évident qu'il est impossible que ce soit pas lui qui joue ça. Mais nous, on ne le sait pas encore. Et donc, cette question de ne pas savoir va être quand même cette espèce de progression dans laquelle on va être avec Louis, de se dire, ils font des choix, ils négocient des choses dont nous, le sens va nous apparaître extrêmement progressivement. Et à ce moment-là, et je pense que c'est une chance du projet, on va accepter, après une première séance de travail, un premier mois de travail là-bas, de ne pas reprendre le contrôle. C'est-à-dire que on commence à rentrer dans des choses qu'on ne comprend pas, on commence à perdre le contrôle. Et quelqu'un qui produit, la production, c'est comme une espèce de rôle de policier, c'est le vigile de l'art. C'est celui qui doit contrôler que les choses se passent bien. Donc, en tant que producteur, inciter les choses à aller plutôt vers des choses inattendues, chaotiques, à donc lâcher prise, a été quand même l'un des gestes qui a été à la fois pas facile, mais nécessaire pour entrer dans ce qui ferait le sens du projet. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on traduit en créole ? D'abord, évidemment, la traduction est impossible. On ne traduit pas du français au créole. L'histoire qui va relier le français au créole ne permet pas de traduire. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de déplacement. La traduction est une forme d'explosion de la langue, une forme de décomposition de la langue. Et l'une des choses qui va se produire à partir du moment où on traduit et on travaille et on lâche prise, ça va être ce que j'appelle un processus de décomposition. Là où l'histoire occidentale se raconte par les héros, c'est sur le corps en décomposition de l'ouverture que va se travailler le projet. C'est-à-dire avec la nécessité de faire avec une chair du passé, mais dans un état décomposé. C'est plus le héros qui se tient debout comme chez Glissant, où on a plutôt un dispositif de procès. Procès déjà très intéressant parce qu'il est dans une spirale du temps. C'est le procès fait par les fantômes de l'histoire au corps mourant de l'ouverture. Nous, dans le travail qu'on va faire, c'est qu'il meurt, l'ouverture. Quelque part, on le pousse vers la mort. Il se décompose et c'est sur le cadavre en décomposition que commence le travail. Et ce travail-là de décomposition, ça va être aussi un travail de décomposition des modes narratifs. C'est-à-dire, on ne sait plus qui parle. Et c'est ce que j'appelle, pour moi, le devenir cacophonique. Et ce qui m'intéresse dans le devenir cacophonique, et je vais rejoindre aussi des choses qui ont été dites ce matin, c'est que la cacophonie, c'est la critique principale que produit le pouvoir contre la classe populaire. C'est ce que va dire le gouvernement actuel contre les Gilets jaunes. C'est l'argument qui est porté contre les jeunes de banlieue parisienne en 2005 quand ils vont se révolter. Ce n'est pas de la politique, c'est de la cacophonie. Et à cela, il faut résister au désir auquel n'avait pas résisté Glissant de répondre non, on est capable de faire un discours. Il faut dire oui, c'est de la cacophonie. Et maintenant, qui sait l'entendre ? Donc le désir de respectabilité qui nous ferait sortir de l'état cacophonique pour pour une langue de respectabilité, c'est le piège en fait des devenirs différents. Donc il y a un moment de cacophonie et il faut être dans ce moment de cacophonie. Il y a quelque chose qu'a filmé Louis qui dure une demi-heure montée mais qui dure 2 heures en réalité, qui est une conversation entre 8 Haïtiens sur le fait de pouvoir quitter ou pas le pays. Et c'est 2 heures non-stop de 8 personnes qui parlent en même temps. Mais vraiment pas un après l'autre, on n'est pas dans des groupes de parole qui avouent. Tout le monde parle en même temps. Et le truc, c'est un truc d'une intensité incroyable. Et tu regardes ça, tu dis, bon, et ça, pour moi, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il y a quelque chose. C'est-à-dire que lorsque la parole a été retenue, empêchée, organisée, hiérarchisée, il y a une espèce d'explosion de la manière de dire. Il y a une chose qu'on va retrouver dans un film comme Mermaid, je trouve, de Caribbean Film Collective. Ça parle de tous les côtés. On n'a plus le besoin de savoir qui parle, ça parle. Et même qui, en termes d'entité, parle, ça parle. Mais là-dedans, ça veut dire comment un cinéma de la décomposition, un cinéma de la dispersion, un cinéma qui accepte donc d'être intoxiqué, et Louis en parlera, cette intoxication du récit dans lequel on rentre, est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Et je pense que cette expérience de film partait d'idées très précises de Louis qui l'a décrit. Et je pense qu'on a fait 2 ans de décomposition de ces idées-là, ce qui ne veut pas dire des hiérarchies d'opposition. Et tout à l'heure, c'était très intéressant ce qui s'est dit dans l'exposé de ce matin, à partir de l'idée de viser un horizon sans avoir besoin d'avoir ni un accord, ni des formes d'opposition. Une espèce d'accord négatif. Je pense que là, je rejoins complètement cette idée-là. On est rentré dans une espèce d'accord négatif, c'est-à-dire qu'on va errer ensemble, et cette errance ensemble, on ne la fait pas pour la même raison, mais en tout cas, on accepte une chose, c'est qu'en fait, elle n'est pas construite à partir de son objectif. Elle est construite à partir de l'intérieur même de l'expérience de fabriquer du sens ensemble. Et donc, ça veut dire sortir, pour finir, de la question coloniale, de la projection. Le cinéma, il est financé à partir du scénario sur un principe de contrôle de la projection. On doit annoncer ce qu'on va faire. C'est une règle du capitalisme dans le cinéma. Quand on n'annonce pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait là, et on n'a pas arrêté de l'écrire en le faisant, on rentre quand même dans un potentiel contre-cinéma profond qui n'est pas une question de sujet, qui est une question de refuser ce qu'on nous demande d'annoncer avec le cinéma. C'est un cinéma qui n'annonce pas, mais qui se fabrique et qui se vit. Voilà, on va regarder peut-être deux extraits qui parlent de ça. Ouais. Le premier sur la question de la spirale, peut-être. Ouais. Peut-être tu veux dire un mot sur la spirale.
Just going to show a very quick clip from the film that we're doing. We show the clip now because it makes sense with what Olivier's, not necessarily like cacophony, but perhaps more, it gives a nice indication about our working methods in terms of improvisation and writing. Maybe I just preface that because it's fine, it's not a spoiler. The scene that you're going to see is improvised, but it's based on something that was like already written, already planned. But that what was planned or written came out of something that happened for real. I think Beth can really understand what that means, working with Carabing. So let's say we're having a conversation in a bus about spirals, and James Desiris, who you'll see in a moment, is the character, the person on the right, and he says one thing about what he imagines the spiral to be. So we shoot a scene with him and Leo, who's on the left, on this beach elsewhere, where James talks about spirals.
As a voodoo priest.
Yeah, and he's a voodoo priest. But this is not the clip I'll show you, because then Leo said later, actually, I want to respond to that, because I'm not so sure. There's other things I'm thinking about. And then he did this great discourse to me and Olivier one night, I can't remember, on a bus or in a bar, talking about spirals and poetry and Creole and camouflage, and we were like, wow. So then we said, all right, we make that as a scene. So in that sense, anyways, well, so we started to try and make scenes in that manner where people could say things, stuff could be improvised. In the sense, I guess, like Olivier said as well, how we were in a permanent process of losing control of our initial idea to allow these people, obviously, allow such a shit word, but to... Anyway, let's just watch the clip and then we'll speak a bit more about that.
Ah, bon. Comme on t'a parlé de Guinée, Guinée a protégé.
Peut-être.
Et ça lié.
Sorry.
Mais.
On comprend une sorte de petite soupirale là.
Grave.
Oui. Mais même penser. Spirale là. C'est carrément. Le mouvement de la vie, c'est le sens même de la créativité. Et comme si c'est ces démarches qui baignent naissance en bas et nouveau. Oui. Et puis, pour qui ça ne va pas dire tout, que c'est appel à cela même, comme si pour une création qui fait, faut que ça parte de en spirale quand même. Bon, en fait, c'est ça me bosser.
Ah, ok.
Puis déjà nous avons un paquet d'écrivains la caïnon qui connu à l'échelle mondiale.
Ah oui, t'as connu Franck Etienne.
Ouais, nous avons René Philotette, nous avons. Oui. Jean-Claude Fignolet,
oui, Daniel Fignolet, c'est...
Ouais.
Et au même qui initiateur.
Franck Etienne, justement, d'ailleurs, moi-même, j'ai une proximité ensemble avec elle. Déjà parce que c'est Franck Etienne qui est censé... Bon, qui m'a dit ça, saisir et puis entraîner dans la poésie.
Ah, ok.
Et puis tout, Monsieur Grandi Belair.
Ah, ok. Même si avant ça, il dit ok, je vais prendre proximité, rapprochement, rapport là qui vient entre nous-mêmes avec Franck Etienne. Ouais. Bon, pourquoi pas? Ça que pour nous, si c'est pas descendant, souvent, on dit ça.
Franck, ouais, je connais. Ouais. Oh, oui. Non, mais au fait, en quelque sorte, c'est mon grand frère.
Ah, oui.
C'est un grand frère. Parce que voilà, les recevoir choc là. Et choc ça même son spirale. Parce que choc ça vient bouleverser en quelque sorte. Avec dit, il fait tourbillon, il fait mouvement, là, quand même, et il vient créer un autre monde. Il vient faire. Non seulement pas son autre genre, et puis il vient prendre l'autre direction qui c'est suivre justement mouvement spiral ça. Et puis créole là en quelque sorte c'est en spirale, c'est
ah oui parce que c'est un brassage, c'est un mélange qui ouais. fait et qui ouais. vient bon créole.
Et puis tout créole là pas bon sens comme si il pas gain sens direct, il pas gain que premier degré là. Créole là souvent pour mon exprimer, il passer par un paquet de bail, il comparer ça l'a dit à des objets ou bien à des faits comme ah, si oui. il contournait et voilà. bah là avant le récit
avant comme le si récit bon, c'est même effet camouflage ouais. là c'est effet marronnage ouais. là toujours
avait dit littéralement non souci pour comme si pour faut comprendre ni charger bah là avec un paquet d'images
un paquet d'images mm.
okay. justement non souci pour ma non. pour marronner pour prendre la fuite. Parce que c'était quand même un moyen pour te fuir vigilance colon.
Ah oui.
Si yo prend mot clé
yo codel
yo ouais des bagages comme ça et puis yo même yo codel yo dit longen yo utiliser des bagages des images yo déformer yo chercher yo créer un bagage. Oh. Et puis kounya
Aye, tiens le café. Parce que c'est pour vous-même.
So, I mean, there's a couple of things, though. There's many things that are quite fascinating in this clip, and I'll try and pick out a few of them. I think to follow on from what Olivier's saying in terms of like both how there was an attempt at a decomposition of the text by Glissant, but also what that decomposition meant to us in terms of the decomposition of our own initial desires. The fact that we had to, in some respects, in the traditional roles in cinema, you have a producer and a director. So he is supposed to produce stuff, and I'm supposed to direct things. That's precisely what we try to do away with. This guy doesn't produce anything. No, I'm joking. He's a great producer. But in this instance, it was a permanent attempt not to like to resist, you know, production and to resist direction. So in that sense, we have no direction and no production. And no direction in the sense that we didn't know where we're going because we're constantly just walking in spirals in Haiti. When I looked back on the rushes that we'd shot, I film everybody in spirals all the time. And that wasn't planned or directed or produced. It happened by accident because that's how I just filmed, because that's how I let myself, my body in the space, work with the people and the situations we were in. Later, then, the people we're working with, James and Leo, Zach and Bijou, they start to speak about spirals. And then in this clip here, they talk about spiralism. They speak about Franck Etienne. They talk about René Philotet, they talk about Jean-Claude Fignoli. When I was filming this scene, I heard these names, Franck Etienne, René Philotet, Jean-Claude Fignoli, Spiralisme. My crayon is not very good, so it goes in and it doesn't register. Plus, and I'll speak about this in a second, when I filmed this scene, I was really ill. Like, I was, pardon my French, I was fucked. Because I had, I didn't realize at the time, Olivier, all the guys were like, no, drink this rum, have this lemon juice, come out for a spaghetti and beer, cheer up. I found out later I actually had, not malaria, no, the other one, dengue. Thank you. I had dengue fever. But at the time I didn't realize, so I was still trying to film like this. Anyways.
Yeah, but I think it makes sense to say that because normally the production of a film is to be bigger than your subject. And it's something that happened with your weakness, with our collective weakness, that created that we were smaller than what we filmed, which is something super interesting in that sense. And just to say something about Franck Etienne, I have to switch in French or if I can stay in English. I will stay in English. Just I will say about Franck Etienne, which is one of the most important poets. I would say Haiti, or I said was one of the most important poets. It's really, really somebody. And so he's got a statement that we discover later that he says, when you are an Haitian poet, it's no use to dream about a kind of pure state on the past. We begin, our beginning, our soul is the cow. We begin by the cow. This is our present situation. And so all his poetry is based on a soul, which is a cow. So out of the phantasm, to come back to a kind of purity of the before colonialism, but says we are after that moment. So now what to do? And so it influenced a lot what we did without knowing that. And so when they name it in the film, at that moment, it's not our idea to think about Franck Étienne that we study later.
Yeah, I mean, Franck Étienne, so Franck Étienne is the poet who developed this literary movement along with these two others, Jean Corfignolet and René Philotet, called Spiralisme. So they wrote novels, spiralist novels. And so Olivier and I and the group were interested in trying to decompose the authorial position of a singular narrator within a film and to allow different voices and subjectivities to enter in, to enter out, but also within one person to have multiple different characters. So sometimes a character in the film speaks as a character from the play. Sometimes they speak as themselves speaking about their character. Sometimes they speak about themselves speaking about their friends. But it's this constant interplay that sort of upsets the viewer's understanding of who is speaking about what at any given moment. So then later I read this fantastic essay by Kaima El Glover, an academic and writer.
She's fellow up here.
He's African American. She's one of the fellows of the Columbia, this place here, Global Center. And within which she starts to explain or try and speak about how spiralism as a literary movement set up in the 60s really tried to do this in face of the dictatorship, the sort of neo-colonial, we could really call it because it's initiated by the American powers in 1915 in Haiti. We didn't know this. This only came after the event. So these are the kind of things that were fascinating. So in terms of us producing and directing, this whole connection to Franck Étienne was not produced or directed by either one of us in the slightest. It was really something that came through this kind of collective body and the exchanges that we were able to have. And there's something in the clip that we just saw, that the character on the left, Léo Jean-Baptiste, he says that Franck Étienne was responsible for, he says in Creole, he says saisim, like to bring him into, de se saisir. Franck Étienne was responsible for capturing and bringing him into poetry. And I think that is essential to think about this word saisir, that we, in some respects, let ourselves be, you know, not captured, it's perhaps not the right word, but to be brought into something beyond our control. Should we play the second clip? It's like...
Just something.
I think I skipped the... I'm going to skip that.
On avait plusieurs choses à montrer, mais celle-ci montre peut-être dans le film le mouvement des personnages entre un régime documentaire reperformé, un régime de fiction. Et l'idée, c'est que le film est monté avec des changements en fait de persona en quelque sorte dans le film. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de, comme disait Louis, dans un régime documentaire rejoué et un régime fictionnel. Et cette scène-là peut-être le montre assez bien.
Yeah. So we'll show that and then we'll finish that.
Gèlè m'ple di. E pou rete bra kwazi la?
Apten.
Ki sa wapten nan?
Apten chime ya. Boko wèl non? Boko paret.
Sèdia!
Maman. A sa sou pale top men. On peut chimer dans les autres.
Vieux beau sale. Afrique est malfecté. C'est pas mourir à nous qui pis mal. C'est mourir seulement à voir bon côté maintenant.
On parle de malfecté. Par contre, hein. Réfléchis sur poison qu'on met dans la rivière. Ça compte pas que le visa pour payer sans chapeau. C'est moi. Ça c'est moi. C'est travail, moi. Oui, ça c'est moi. Moi qui l'en boule figure. Mais travail m'a fait tellement là tout pour guérir ma langue avec la fièvre si là qui est entouré.
Kounia, vous avez écrit pour la pistole. Mais 100 ans avant, tu as un beau sale qui te connaît marron dans mon nom pour gros coup de fret. Ou pas de premier.
Mais c'est nom qui était tout. C'est parce que m'te bay nan mwen nan batay sa. Mon poisson est propre tête mwen. M pa ka pran bal. M gen ke di. Plusieurs fois mwen mouri. Mais m'arrive vive dans l'autre corps. Ouais mais m'ap gade la. M ka vin nan te sommeil ou tant qu'on go koulev.
Mais nan c'est juste c'est le choix de bataille. Makandal. Nous t'es frère, oui. Mais ou même, c'est la pire en personne. Même partisan yo lè autant d'eau, yo tremblé, oui. C'est tremblé ou qu'on tremble lè ou qu'on tende ou à parler, oui. Même rete kwa gen nan yo ki te kon ap grin dan sou lè ou t'ap gri ou sou place là.
Ou à parler kaka mouche.
Nous t'es fout fè révolution ensemble ou même tout, oui.
Trompé ou. Monte là. Monte là dans chaque corps, dans chaque nom, dans chaque coup de pont, y'a un te kon baile de minyo. Monte tout n'est 20 révolutions que l'esclave ou t'as respiré. Ou même, ou t'as fourré Jolo dans a fait la République. Ouais, moi même, toute vie m'en gasse ça yo. Pas qu'à pas intéressé.
Tout ça c'est foutre à d'autres. Est-ce qu'on oublie chanter? Wele makaya ya makaya ya makaya e Pabli makaya ya makaya ya makaya e Pabli makaya ya makaya ya makaya e
On peut remettre ça, la guérison.
Pour qui c'est ça nous-mêmes qui veut remettre ça?
Oui, c'est vrai. On va nous voir ensemble. Dis-moi, on va en couvrir.
Non, bien en bas, le style, pas bien quitter. Pas bien tête quitter, quoi, non?
Ça, je vais pas mentir, non? Je vais dire à cette équipe-là, ça.
Non, c'était juste pour dire que dans le mode narratif du film, on revient dans la partie documentaire et les personnages qui sont des marrons, Makaya et Makanda à l'instant d'avant, redeviennent Zach et Bijou qui sont leurs vrais noms dans l'état civil et c'est le vrai groupe qui discute de la guérison de ceux qui sont. Et du coup, l'idée même de spirale joue aussi entre le mode documentaire et le mode fictionnel.